Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à tous et à toutes, Jean-Michel Dardour et Perry Willet ce matin avec vous.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes très heureux de vous retrouver évidemment. Et nous avons invité ce matin une personne qui est Patrick Vidal. Et Patrick Vidal, il y a trois bonnes raisons pour lesquelles nous vous avons invité ce matin. La première, c'est que vous êtes le rédacteur en chef de Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France. La deuxième, c'est que vous êtes également le président d'une loge de recherche de la Grande Loge de France qui s'appelle Jean-Scott Érigène, dont vous allez nous parler tout à l'heure. Et la troisième, c'est que vous serez le prochain conférencier, l'un des prochains conférenciers de nos conférences publiques de Condorcet-Brossolette, dans le cycle Condorcet-Brossolette, dans le temple Pierre-Brossolette de la Grande Loge de France le 19 mars prochain, et au cours duquel vous traiterez la franc-maçonnerie, une culture et un art de vivre au XXIe siècle. Alors on va commencer par Point de vue initiatique.
Très volontiers, très volontiers. Donc j'ai ce bonheur et cette responsabilité d'être le rédacteur en chef de Point de vue initiatique, donc la revue de la Grande Loge de France qui est destinée aussi bien aux profanes qu'aux initiés, à ceux qui rentrent en quelque sorte dans la voie. Alors Point de vue initiatique, bien sûr, c'est la revue de la Grande Loge de France, mais elle n'engage que ses auteurs. Et elle a soin de savoir marier toujours une plume extérieure, un regard extérieur sur les sujets traités avec notre regard maçonnique, ce qui permet à tout un chacun de se positionner et de comprendre quelle est la voie, quelle est l'utilité de cette voie, qu'est-ce que nous apportons. Et par conséquent, chaque numéro traite un sujet particulier et ça devient un numéro de référence. C'est une des revues les plus identifiées et les plus claires dans notre domaine. Et par conséquent, elle devient une revue de référence.
Alors, le numéro qui va sortir au mois de mars est intitulé « Les langages de l'initiation et la parole ». Alors, il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui sont des maçons. Et effectivement, je vois que cette fois-ci, vous avez invité Gérard Rabinovitch, un philosophe que nous avons invité à cette antenne, qui est un philosophe que nous aimons beaucoup, qui est directeur des programmes de l'Institut européen Emmanuel Lévinas, qui traitera pour revenir à l'animal parlant. Et puis ensuite, au mois de juin, prochain numéro après celui du mois de mars, les langages de l'initiation, la colonne d'harmonie. Alors là, l'invité est Raphaël Imbert, un musicien de jazz, qui sera également l'un de nos conférenciers au mois de mai prochain à la Grande Loge pour une conférence publique.
Et donc tout le monde, vous le voyez, a de bonnes raisons de s'exprimer. Et ce qui est important pour nous, puisque nous traitons des langages, c'est que le langage, c'est aussi bien la parole, que quelque chose de technique qui est plus universel ou quelque chose de plus sémantiquement indéterminé qui est la langue. Et donc, quand nous travaillons la parole, nous l'entendons, nous vibrons avec celui qui parle. Et par conséquent, elle a quelque chose d'intime et personnel, et c'est cela que nous exprimons. Chaque maçon a sa parole, sa vision, et qu'il...
Mais ce que vous traitez là, ça s'adresse essentiellement aux francs-maçons ou parce que je crois que cette revue PBI est en vente libre dans les grandes librairies de français de Navarre. Qu'est-ce qui fait qu'un profane qui nous écoute en ce moment peut être intéressé par ces sujets que vous évoquez et par le prochain du prochain trimestre?
Qu'est-ce qui intéresse quand justement prenons ce que dit Gérard Rabinovitch. Nous avons l'habitude de communiquer par éléments de langage. Nous échangeons des éléments de langage. Le discours sur la place publique, ce sont des éléments de langage. Et en fait, à quoi nous assistons? C'est un appauvrissement de la pensée, à une désertification de la pensée. Et c'est ce qu'évoquera justement Gérard Rabinovitch dans le numéro qui va sortir au mois de mars. La parole est quelque chose de très important pour nous. Nous travaillons, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? C'est une école mutuelle. Donc, nous échangeons notre parole. Nous parlons en face de frères avec qui nous travaillons. Nous écoutons le frère. Nous participons à ce qu'il dit, ne fût-ce qu'en l'écoutant. Et donc, la parole est fondamentale chez nous parce qu'elle est personnelle. Nous concluons toujours par « j'ai dit, je ne cache rien dans le rituel », mais « j'ai dit », ça ne veut pas dire « je m'affirme moi en face de vous », mais ça veut dire « ça m'engage moi et ça n'engage que moi.
C'est peut-être l'un des principaux apports de la méthode maçonnique que de montrer qu'on ne se coupe pas la parole lorsqu'on intervient en loge et lorsqu'on écoute le frère d'en face.
Absolument. D'ailleurs, c'est redit dans le numéro en question. La parole ne se prend pas en loge, elle se donne. C'est-à-dire que nous demandons la parole. Celui qui organise le travail sur ce côté-là va demander la parole au président qui donne la parole.
Donc c'est à la fois un livre qui pourrait être un marchepied, si j'ose dire, pour quelques candidats, et c'est aussi un livre qui peut servir comme chevet à tous les francs-maçons qui ont des sujets à traiter. Nous appelons ça des planches. Ça peut être à la fois des éléments de référence, de réflexion supplémentaire.
Alors tout à fait. Là il y a une nourriture, pas au sens juste de nourriture terrestre, mais nous avons. Il suffit de regarder la discipline de la parole en loge. Nous commençons par là. Dans ce numéro, mais aussi nous travaillons sur la transmission et les langages traditionnels des rites. Et ce qui est intéressant, par exemple, la parole en image de Saverio Campanini, qui enseigne en Italie, qu'est-ce qu'il reprend ? Il va reprendre toutes les représentations de la parole, et notamment les fameux séphirot, qui sont une représentation de la parole qui enveloppe. Donc nous avons la parole en image, aussi bien que nous avons la parole en tant que telle, celle qui est changée, qui a une couleur, qui a une vibration. Nous réfléchissons sur un langage sans parole. Ce qui fait que nous pouvons échanger entre nous, c'est que nous ne sommes pas bloqués par un langage, par une signification impérative qui s'impose à nous, que nous acceptons, que nous refusons. Non, nous travaillons avec des symboles. C'est un langage symbolique. Et dans symbolique, nous avons la réunion. Chacun détient un petit morceau de la pièce qui, assemblée, fait l'idée. Et donc, nous ne détenons pas la vérité. Chacun d'entre nous en détient un élément. Et c'est la composition de ces éléments ensemble qui nous conduit vers quelque chose, peut-être d'inaccessible, qui est la vérité du monde.
Très bien. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, si vous avez envie de vous abonner, il suffit d'aller sur le site internet de la Grande Loge de France, www.gldf.org. Et dans la rubrique PVI, vous pourrez vous abonner très facilement. Ça ne coûte que 4 euros par trimestre. Franchement, c'est donné. Deuxième point, vous êtes le président d'une de nos loges de recherche qui s'appelle Jean-Scott Érigène.
J'ai aussi ce bonheur.
Voilà. Alors, vous allez nous dire ce qu'est une loge de recherche.
À quoi ça sert une loge de recherche?
Oui, et pourquoi ça s'appelle « Qui était Jean-Scott Érigène ?» Voilà.
Alors, chaque chose. Allons dans l'ordre. Une loge de recherche. Jean-Scott Érigène est la plus ancienne, la première loge de recherche de la Grande Loge de France. Elle fête ses 30 ans l'année prochaine. Ce sera un grand moment et il y aura un grand colloque qui n'est pas encore préparé, mais qui va consacrer cet événement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loge de recherche alors que nous sommes censés travailler dans les loges? Qu'est-ce que nous ne ferions pas dans les loges, que nous ferions dans une loge de recherche? Alors, en fait, la loge de recherche est un lieu de l'exercice, de la réflexion du maçon tourné vers la cité. C'est-à-dire que nous sommes dans une espèce de lieu sans endroit. Nous sommes à la jonction du temple et des parvis, c'est-à-dire l'endroit fermé, le cocon sacré où nous échangeons la parole en toute tolérance, et l'endroit de l'action, le parvis, qui est l'endroit de la cité. Donc nous regardons en quelque sorte quelle action développer dans la cité, adossée au temple, avec tout ce que nous avons appris et acquis par le travail dans le temple que nous réalisons dans la cité. Et donc le job de la, si je puis m'exprimer ainsi, le job de la loge de recherche, c'est justement de se faire ce travail tourné vers la cité. On peut synthétiser le travail d'un Jean-Scott Érigène en disant « Frères humains qui avec nous vivez, qu'avons-nous à vous apporter ?»
Mais vous n'êtes pas détenteur d'une seule parole, d'une seule pensée. C'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs loges de recherche, si j'ai bien compris, à l'intérieur de la Grande Loge de France.
Ce n'est peut-être pas l'idée détenteur, nous ne détenons rien. Nous travaillons, nous étudions, études et recherches, ça veut dire se poser fondamentalement des questions. Alors il y a un programme de travail, et Jean Scott a nourri les autres loges de recherche. La loge de recherche historique, Marquis de Lafayette, a été créée par un de mes prédécesseurs, donc qui a suivi. Donc Jean Scott est une espèce de matrice nourricière qui a créé les principales institutions qui nous permettent de réfléchir en dehors du travail particulier que nous avons en tant que maçons. Nous utilisons cet acquis maçonnique. Alors, à Jean Scott, nous réfléchissons en ce moment sur un cycle de 3 ans, sur l'identité maçonnique au XXIe siècle. Que se passe-t-il? Nous partions d'un siècle merveilleux, tranquille, qui arrivait après l'horreur du XXe siècle. Et cette horreur du XXe siècle, discontinuité, nous rentrons dans l'harmonie et le progrès de l'humanité, et patatras. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous trouvons dans des disruptions. La puissance, l'innovation permanente s'impose, les technologies foisonnantes la concrétisent, et nous nous trouvons devant une globalisation en même temps qui engendre des replis identitaires. Donc dans tous ces chocs auxquels nous assistons et que tout un chacun d'entre nous peut constater, ne fût-ce qu'à l'échelle de la planète, dans ce qui se déroule aujourd'hui, nous sommes en fait dans une société qui est fracturée en même temps qu'elle est globale, parce que celui qui est finalement dans un terrain vague, qui a une télé branchée sur une dérivation d'électricité, voit exactement la même chose que celui qui est dans la villa en haut, qui regarde la même télé et voit la même pseudo-réalité qu'il partage. Alors on comprend la frustration, on comprend les ruptures, on comprend les failles de notre système, à partir du moment où le déshérité et celui qui bénéficie sont exactement dans la même représentation du monde, et on comprend que celui qui est déshérité y aspire immédiatement. Et donc on ne fait pas le trajet d'Éthiopie en Europe simplement parce que un griot, un marabout aurait inventé un paradis qui serait l'Europe.
Alors pourquoi avoir choisi le nom de Jean Scott Erigène? C'est un exemple d'universalité?
Alors, il y a de ça. Qui est Jean Scott Erigène? Alors, nous remontons au père fondateur de l'Empire romain, du Saint-Empire romain germanique, Charlemagne. Charlemagne veut créer, c'est un ami des arts et des lettres, et crée une école palatine. C'est l'époque d'Alcuin, c'est l'époque de Jean Scott Erigène. Que veut dire Jean Scott Erigène? Jean, vous le savez, Scott, ça veut dire en fait Irish, en fait, et non pas écossais. Et Erigène vient de Eru, ce qui est aussi une manière de dénommer l'Irlandais. Donc, c'est un érudit à l'époque, et chose extraordinaire, non seulement il parle le latin, mais même le grec. Donc, il va lire le pseudo Denis l'Aéropagite, Maxime le Confesseur, et donc il est capable, on parle de renaissance carolingienne à ce moment-là, parce que le même phénomène se produit, nous avons accès aux textes d'origine. Et par conséquent, Jean Scott Erigène va être un de ceux qui contribue, un des contributeurs clés de la Renaissance carolingienne. Souvenons-nous qu'à l'époque, nous sommes entre le sacerdotum et le regnum, et que naît le troisième pôle, le studium. Et ce studium, Jean Scott Erigène en est une des pièces clés, et notamment par un de ses écrits fondamentaux, La division de la nature, où il montre que, en fait, Dieu se connaît par sa création. C'est parce qu'il crée qu'il sait qui il est. Et par la création, nous participons tous individuellement de cette petite lumière. Et donc l'univers n'est qu'un assemblage de petites lumières qui sont la manifestation de la lumière unique. Et par conséquent, nous l'avons choisi pour cela, la Renaissance carolingienne, la liberté de penser, l'accès au texte, la tradition en même temps que le contemporain et le devenir de ce que Charlemagne construisait, en même temps que de l'autre côté, il y a cette idée de tout et d'un, de pluralité des connaissances et de la vérité à la recherche de la vérité unique, pour nous. Donc, c'était un guide idéal dans notre travail.
Quelle est la différence entre un travail en loge, je dirais d'une loge classique, et une loge de recherche?
Alors la différence du travail, c'est une bonne question. La différence du travail, c'est que nous travaillons avec un programme, avec la volonté d'aboutir à un résultat de réflexion en fin d'année. Nous publions quelque chose qui est interne. Donc il y a tout un travail d'études que des universitaires peuvent comprendre. C'est l'équivalent d'un livre blanc, par exemple, d'un white paper pour des universitaires. Et ce travail, c'est un regard maçonnique, échangé en termes maçonniques, puisque nous travaillons à un degré où, qu'on appelle chez nous maître. Pourquoi nous travaillons comme ça? C'est pour bénéficier de la liberté extraordinaire. Nous ne mettons aucune limite, nous, dans la recherche de la vérité. Mais en contrepartie, la contrepartie, c'est la tolérance. Et c'est ce qu'assure le cadre du travail en loge. C'est pour ça que nous travaillons de cette façon-là.
Merci Patrick Vidal. Je vais maintenant passer à la rubrique Vie de la Grande Loge, qui est animée par Perry. Perry, vous allez sûrement nous parler du grand colloque national du mois d'avril, car nous n'avons pas d'émission en mars. L'émission est dédiée à nos sœurs de la Grande Loge féminine de France.
Alors juste avant, j'ai peut-être vous parler de quelques livres qui sont intéressants et qui poursuivent un peu la réflexion qu'on vient d'entendre. Je vous suggère « La franc-maçonnerie, les défis du XXIe siècle », qui est écrit par Jean Bartholo aux éditions Télétès, qui dit que l'introspection, certes, elle est nécessaire, mais il faut se confronter aux épreuves de la vie, et évidemment avec une plus grande vigilance. Un autre livre que je vous suggère, c'est « Le croissant et le compas », de Thierry Zarkon aux éditions d'Hervy, qui montre l'évolution de la franc-maçonnerie en terre d'Islam, avec ses heures et malheurs. Un troisième qui s'appelle « Je suis chrétien et franc-maçon, où est le problème ?» de Claude Thomas aux éditions Edilibre. Donc là, le titre est assez parlant. Et puis le dernier qui s'appelle « Debout citoyen » de Gilles Cosson aux éditions Fauve, qui lui dit que finalement, sans renier nos traditions grecques, romaines, juives et chrétiennes, comment répondre aux défis de la mondialisation, comment lutter contre la décadence des esprits. Ça s'adresse évidemment principalement aux jeunes, si je peux me permettre, ce qui me fait un lien avec le colloque dont vous parliez, Jean-Michel. C'est un colloque qui est organisé conjointement par la Grande Loge Féminine de France et la Grande Loge de France, qui s'adresse essentiellement aux jeunes. D'ailleurs, notre grand maître Philippe Charuel a dit récemment « C'est la jeunesse qui peut revivifier et réenchanter l'humanité en souffrance ». C'est un vaste programme.
Quelle est la date et le lieu ?
Alors, ça sera le 2 avril au Palais Brongniart de 10h à 18h. C'est un colloque qui est organisé par les jeunes et pour les jeunes, parce que les trois tables rondes dont je vais vous parler tout de suite, nous les avons bâties en consultant des jeunes pour savoir quelles étaient leurs préoccupations. Et quand je dis que c'est pour les jeunes, c'est que c'est essentiellement à leur endroit que s'adresse ce colloque. Il y a trois tables rondes, une qui est comme thème « Partager l'essentiel, est-ce que c'est une ambition ?» La deuxième, c'est « Travailler encore demain, est-ce que c'est une envie ?» Et la troisième, c'est « Aimer aujourd'hui, est-ce une passion ou une curiosité ?» Et pour animer ces tables rondes, il y aura d'une part Madame Charline Rasse, Alain Grézel, passé grand maître de la Grande Loge de France, et Robert de Rosa, qui aussi est un membre éminent de notre obédience. Donc le 2 avril, au Palais Brongniart, et sur le site, vous allez pouvoir découvrir l'affiche et le programme avec plus de détails que ce que je viens de vous dire.
Bien, merci Perry. Il me reste à remercier Patrick Vidal. J'espère que vous avez donné envie à nos auditeurs et à nos auditrices de venir vous entendre le 19 mars prochain, 8 rue Puteau, dans le 17e arrondissement, métro Rome, pour votre conférence dans le cadre de Condorcet-Brossolette. Je vais remercier Philippe Mercher à la technique et Dany Journeau à la réalisation. Et je vais aussi saluer nos frères des autres loges de recherche. Nous avons d'autres loges en Alsace. Nous avons aussi nos amis de Mare Nostrum en Arles, mais qui se réunissent dans tout le sud de la France.
Et Saint-Jean-d'Écosse, la mère loge écossaise à Marseille, qui publie aussi de très intéressants recueils.
Voilà, merci à tous. Bienvenue à nos sœurs de la Grande Loge Féminine de France le mois prochain. Et puis, nous vous redonnons rendez-vous au mois d'avril pour vous donner un compte-rendu du colloque que vient de vous décrire Perry Willet. Bonne journée à tous et à toutes.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.